VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. États-Unis, le président Donald Trump a annoncé Neil Gorsuch comme candidat à la Cour suprême pour succéder à Antonin Scalia, juge conservateur décédé en février dernier. Âgé de 49 ans, le magistrat est nommé à vie, mais son choix doit d'abord être validé par le Sénat américain. La nomination de magistrat conservateur à la Cour suprême était l'une des principales raisons avancées par les électeurs de Donald Trump pour justifier leur choix du milliardaire républicain. Et ce dernier a promis à maintes reprises de leur donner satisfaction. Mais l'opposition démocrate souligne sa détermination de faire échec au plan des républicains. Par ailleurs, le décret du nouveau président américain Donald Trump interdisant l'entrée pendant 90 jours du territoire américain aux ressortissants de 7 pays, entre autres l'Irak, pour stopper, selon Washington, d'éventuels terroristes islamiques radicaux, n'en finit pas de provoquer des réactions dans le monde. C'est le cas en Irak, Anastasie Tudiech.
Le premier ministre irakien a affirmé hier qu'avec ce décret, c'est la victime qui est pointée du doigt. Haider el-Abadi a ajouté que son gouvernement examinait toutes les options. Les députés irakiens ont même voté une motion appelant le gouvernement à appliquer la réciprocité si Washington ne revenait pas sur sa décision. Les États-Unis comptent plus de 4800 soldats en Irak qui soutiennent les forces irakiennes face au groupe État islamique. Des conseillers militaires américains aident actuellement le pouvoir irakien à reconquérir Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Lundi, le Pentagone a promis de venir à la rescousse des Irakiens qui ont travaillé pour l'armée américaine pour qu'ils puissent entrer aux États-Unis malgré le décret controversé. Le statut des pilotes irakiens s'entraînant actuellement sur une base aérienne en Arizona n'est pas tout à fait clair.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Afrique maintenant, RDC, des combattants appartenant à l'ex-groupe rebelle du M23, mouvement du 23 mars, ont capturé et torturé les membres d'équipage d'un hélicoptère de l'armée congolaise qui s'est écrasé la semaine dernière dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé mardi l'état-major des FARDC, les forces armées congolaises. Trois des quatre membres d'équipage ont péri après avoir été torturés, précise l'armée. Selon l'agence Reuters, le général Léon Mouchalé a précisé que l'équipage avait été capturé après la chute de l'hélicoptère et livré au chef militaire du M23, Sultani Makenga. Un représentant du M23 a nié la présence de ses combattants en RDC. 184 Burundais arrêtés depuis plus de 14 mois en RDC ont été extradés ce mardi par les autorités congolaises sous la supervision de la commission conjointe de vérification de la CIRGL, la communauté économique des Grands Lacs, sous le regard du Haut Commissariat pour les réfugiés et du CICR, le comité de la Croix-Rouge. Accueillis par le ministre burundais de la Justice et le procureur de la République, ces Burundais accusés de faire partie des mouvements insurrectionnels par Bujumbura seront conduits directement dans les bureaux des services de renseignement pour identification, selon le porte-parole de la police burundaise Pierre Nkurunziza. De Bujumbura, les précisions de Christophe Nkurunziza.
De l'autre côté de la frontière, un gros camion fermé du ministère congolais de la Justice amène les prisonniers burundais escortés par des militaires de la RDC. Après plusieurs heures d'échanges entre le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, la CIRGL, le CICR et le HCR et la MONUSCO, ces Burundais emprisonnés à Bukavu depuis plus d'une année peuvent enfin fouler le sol burundais. Les noms de ces extradés burundais est élu par les agents de la douane du côté burundais, la ministre de la Justice, le procureur général de la République ainsi que le gouverneur de la province de Bujumbura Rural leur ont souhaité la bienvenue tout en déclarant que la justice va faire son travail conformément à la loi. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, affirme que ces jeunes gens lui ont signifié qu'ils ont été trompés par des politiciens mais qu'ils veulent regagner le bercail.
Quand quelqu'un est fatigué de rester en exil, il doit pouvoir rentrer chez lui. Le tout, c'est que ça se passe en respectant les normes. Et il y a l'enthousiasme au retour. Hein. Et ceux qui ne veulent pas rentrer, on ne les a même pas amenés ici. Mais il y a 184 qui doivent repartir, mais il faut respecter les normes. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient burundais, demandeurs d'asile, au Rwanda. Ils ont quand même traversé la frontière en étant toujours demandeurs d'asile au Rwanda. Dans ce cas-là, il faut attendre que les procédures se passent comme il faut. Nous les avons arrêtés. Quand quelqu'un n'a pas le document, on l'arrête, hein, dans tous les pays du monde. Moi, je les ai ramassés en prison. Je n'ai pas demandé au directeur de la prison, vous les avez trouvés où? Ils m'ont même coûté deux vaches pour les fêtes de fin d'année, hein, avec les prisonniers congolais. Ça a pris du temps, on n'a pas arrêté tout le monde le même jour. Hein. Moi, je les livre au gouvernement burundais. Le gouvernement burundais est signataire des accords internationaux. Je n'ai pas demandé à quelqu'un s'il était rebelle. Si c'était un rebelle, la procédure serait tout à fait différente. Ils n'étaient pas dans les camps de réfugiés, ils étaient en prison. Non, c'est les prisonniers qui étaient fatigués de rester en prison pour rien. C'est le grand lac. Hein.
Le chef du bureau de la mission des Nations Unies en RDC estime qu'il faut tout faire pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs, tout en respectant les droits de l'homme. Charles Frispi.
La MONUSCO est là pour suivre le dossier parce que dans le domaine des droits de l'homme, on a des responsabilités de bien suivre le dossier pour nous assurer que les droits humains sont respectés et que les autorités que je vois le prennent en sérieux respectent le même cadre.
Au moment de cette extradition, toutes les activités économiques sur la frontière de Gatumba entre le Burundi et la RDC étaient paralysées pendant plusieurs heures. Le porte-parole de la police a confié à la presse que ces Burundais seront acheminés directement via les services de renseignement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
RCA, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'un an l'embargo sur les armes à destination de la Centrafrique. Décision prise le 28 janvier alors que le pays espérait la levée de cette sanction. Les Centrafricains sont donc très en colère. Écho de leur réaction à Bangui, au micro de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
C'est une chose inacceptable. On ne peut pas être dépendant de cet pays. Nous devons avoir l'initiative d'être autonome. Des reports.
Je crois que c'est pas normal, puisque c'est pas pour la première fois.
Si maintenant on va de report en report, quand est-ce que RCA aura sa souveraineté en matière de sécurité?
Nous sommes très conscients que c'est nous-mêmes qui dépendons de notre sécurité et nous voulions ce que les forces armées centrafricaines assurent la sécurité des Centrafricains.
Des réactions à Bangui en RCA.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Mauritanie, un journaliste et opposant condamné en juillet 2016 pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre a été libéré hier à la faveur d'une réduction de peine à l'issue de son procès en appel. Les détails avec Jacques Aristide.
Le journaliste Sheikh Bayould Mohamed avait été condamné à 3 ans de prison ferme le 14 juillet 2016 pour outrage et violence contre une autorité publique. L'incident s'est déroulé lors d'un point de presse du ministre Mohamed Lemine Ould Sheikh, porte-parole du gouvernement mauritanien, lorsque le reporter lui avait lancé sa chaussure sans l'atteindre, le qualifiant de ministre du mensonge. Il avait été maîtrisé par des policiers, arrêté et détenu avant d'être inculpé et écroué le 11 juillet. Jugé en appel à Aleg, où il avait été transféré peu après sa condamnation, Sheikh Bayould Mohamed a été condamné à une peine réduite à 1 an de prison, dont 7 mois ferme, et le reste avec sursis. Vu qu'il a déjà purgé la peine de prison ferme, la justice a ordonné sa libération. Sa condamnation avait suscité de vives protestations de son mouvement, dit mouvement du 25 février, né dans le sillage du printemps arabe et opposé au président Mohamed Ould Abdelaziz.
Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon, la première demi-finale de la CAN, c'est ce soir à Libreville entre le Burkina Faso et l'Égypte. Notre envoyé spécial au Gabon, Timothée Donangmaï.
L'important pour le Burkina Faso est de s'être qualifié pour la demi-finale, a déclaré le coach Paulo Duarte avant de juger l'adversaire.
L'Égypte, Yaldin, ils défendent bien, ils défendent beaucoup. C'est caractéristique du modèle de jeu de son coach, qui reste 4 pour 2 toujours derrière. Aucun vont pour l'attaque, l'attaque pratiquement avec 4 joueurs, parfois 5 joueurs, ça c'est le style de cette équipe.
En allusion au prestigieux palmarès de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, Paulo Duarte a fait remarquer qu'à chaque match correspond une histoire, une époque et même une équipe différente. Le coach de l'Égypte, Hector Cooper, a lui aussi tenu à souligner que l'histoire est importante, mais pas aussi importante que cela.
Et évidemment, l'Égypte a gagné 7 Copas d'Afrique, non, aucune doute.
Non, quand j'ai pris cette équipe d'Égypte, je connaissais bien sûr le passé de l'Égypte dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, on ne peut pas se passer de l'histoire. Maintenant, nous nous sommes beaucoup plus appesantis sur nos ambitions personnelles qui étaient de se préparer pour cette Coupe d'Afrique des Nations et également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Hector Cooper a assuré que son équipe a le talent, l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour gagner.
Merci Timothée Donangmaï.